Le journal est présenté par Antoine Maret. Bonsoir Antoine.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Deux militaires français ont été tués la nuit dernière au Burkina Faso lors d'une opération militaire qui a permis la libération de 4 otages. La ministre des Armées Florence Parly exprime ce soir sa profonde tristesse. Les négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine ont repris à Washington. Leur but, tenter de trouver un consensus pour mettre un terme à la guerre commerciale entre les deux pays. Dans l'actualité française, cette question qui revient sans cesse depuis le 15 avril, faut-il reconstruire Notre-Dame à l'identique? Cela fait partie des débats qui divisent les députés. Ils examinent aujourd'hui le projet de loi encadrant la réparation de la cathédrale. Et puis à la fin de cette édition, l'enquête de la cellule investigation de Radio France. Elle portera sur les 30 ans d'affaires qui ont jalonné la carrière politique de Patrick Balkany. La France est partagée ce soir entre la joie et le deuil. La joie car 2 otages français ont été libérés dans le nord du Burkina Faso ainsi que 2 autres otages américains et sud-coréens. Patrick Pic et Laurent Lassimouya avaient été enlevés le 1er mai dernier lors d'un séjour touristique au Bénin. Le deuil car au cours de l'opération militaire qui a permis leur libération, 2 militaires français ont été tués, Cédric de Pierrepont et Alain Berton-Cello. Bonsoir Christian Chesneau.
Bonsoir.
Vous vous trouvez au ministère de la Défense où Florence Parly, la ministre des Armées, s'est exprimée tout à l'heure sur les circonstances de l'opération.
Oui, Florence Parly a détaillé le déroulement de cette opération en compagnie du chef d'état-major des armées, François Lecointre. Une opération qualifiée d'exploit, d'une très grande complexité et d'une rare difficulté, a souligné la ministre. Le général Lecointre a expliqué que dès que les 2 touristes français avaient été enlevés au Bénin voisin, la force Barkhane, présente au Sahel, ainsi que la direction du renseignement militaire avait été mobilisée pour retrouver leurs traces, ce qui a été fait le 7 mai, c'est-à-dire 5 jours avant l'opération de libération. Il fallait agir très vite, a dit le général Lecointre, sinon les otages risquaient d'être transférés vers le Mali où se trouvent des mouvements terroristes liés à Daesh et à Al-Qaïda. Après avoir repéré un campement dans le nord du Burkina Faso, la décision a été prise hier par Emmanuel Macron d'intervenir militairement. Les commandos français se sont infiltrés en pleine nuit au plus près de 4 abris occupés par les terroristes. Les militaires français ont alors été repérés par une sentinelle à 10 mètres de leur cible. C'est en pénétrant dans 2 abris que les 2 commandos marines ont été touchés mortellement à très courte distance, a précisé le général Lecointre. 4 des ravisseurs ont alors été tués dans les échanges de tirs. 2 autres ont été abattus alors qu'ils s'enfuyaient. Pour cette opération, la France a travaillé avec l'armée burkinabé, mais aussi avec les États-Unis qui ont fourni du renseignement. Les militaires français ont été très surpris de découvrir 2 autres otages, américains et sud-coréens, aux côtés des 2 Français otages, a expliqué le général Lecointre, qui a insisté sur l'héroïsme des forces spéciales dans cette opération.
Merci à vous, Christian Chesneau. L'opération, effectivement, s'est déroulée dans un campement djihadiste situé au nord du Burkina Faso, près de la frontière malienne. C'est la zone d'influence de l'État islamique au Grand Sahara. Le Burkina Faso est confronté depuis plusieurs mois à une explosion des violences attribuées à des groupes djihadistes. Les forces de l'ordre semblent impuissantes à les enrayer. Sur place, la correspondance de Sophie Douce.
Le président du Faso, Rochmar Christian Caboret, a salué ce vendredi la libération des 4 otages. Il a présenté ses condoléances aux familles des 2 soldats français tués. Alors, pour l'instant, du côté des autorités burkinabées, très peu de détails ont filtré sur l'opération. Tout ce que l'on sait, c'est qu'elle a été conduite par l'armée française en collaboration avec les forces spéciales burkinabées. 4 terroristes ont été neutralisés dans un campement situé au nord du Burkina. Des éléments affiliés à la Katiba Massina, un groupe djihadiste actif au centre du Mali. Mais pour l'heure, aucune revendication n'a encore été faite. Au Burkina Faso, les groupes armés ont gagné du terrain ces derniers mois au nord et à l'est du pays. Plusieurs experts craignaient d'ailleurs une contamination de la menace terroriste au Bénin, au Togo ou encore au Ghana. L'alerte avait d'ailleurs été lancée par les services de sécurité burkinabés. L'armée a lancé une vaste offensive dans la région de l'est et avait prévenu d'un risque de repli vers le Bénin, un pays jusqu'ici considéré comme un îlot de stabilité dans la région. La preuve pour un expert que le verrou burkinabé a bien sauté.
Plus de 41 millions de personnes déplacées à travers le monde, c'est du jamais vu. Selon l'IDMC, c'est une ONG spécialisée sur les mouvements de population à l'intérieur de leur pays. Elle vient de publier un rapport à Genève. Principaux pays touchés, l'Éthiopie, la République démocratique du Congo et la Syrie. Mais si les violences forcent toujours plus de personnes à quitter leur foyer, les catastrophes naturelles provoquent encore plus d'exilés. Explication de Jérémy Lanche.
Le rapport souligne plusieurs tendances pour les déplacés. Déjà, les guerres sont de plus en plus violentes et de plus en plus longues, comme en Syrie, empêchant toute possibilité de retour pour les civils. Les villes ne sont plus épargnées, comme Hodeïda au Yémen ou Tripoli en Libye. Mais plus que les violences, ce sont les catastrophes naturelles qui font le plus de déplacés. Alexandra Bilac est la directrice de l'IDMC.
C'est vrai que ces dernières années, on a souvent plus de personnes qui sont déplacées par des catastrophes climatiques que par les conflits. Ceci dit, le type de déplacement est aussi différent. Dans un contexte de catastrophe, il s'agit en grande majorité d'évacuation de populations par des gouvernements pour les protéger de ces catastrophes. Bien sûr, il est impossible de donner des projections en termes de chiffres, mais ce qu'on sait, c'est que les effets du changement climatique ne vont faire que intensifier ces aléas climatiques, donc on ne peut que s'attendre à une augmentation de ces mouvements à l'avenir.
Les catastrophes climatiques et la guerre peuvent même s'abattre en même temps. C'est le cas en Afghanistan, où la sécheresse l'an passé a obligé 371 000 personnes à quitter leur foyer, autant qu'à cause du conflit avec les talibans.
Les négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine ont repris aujourd'hui à Washington. Leur but, tenter de trouver un consensus pour mettre un terme à la guerre commerciale entre les deux pays. Le représentant au commerce et le secrétaire au trésor ont accueilli les responsables chinois, dont le vice-premier ministre. Bonsoir Grégory Phillips.
Bonsoir Antoine.
Vous êtes notre correspondant à Washington. Ces négociations sont perçues comme celles de la dernière chance avant un sommet entre les présidents chinois et américains. Mais pour l'instant, aucune avancée perceptible, bien au contraire, puisque le négociateur en chef chinois a quitté le lieu des discussions.
Oui, les discussions ont duré un peu plus de 2 heures ce matin et elles sont terminées. Le secrétaire au Trésor américain, Steve Mnuchin, dit qu'elles ont été productives, mais en vérité, ces négociations sont âpres, on le sait. Depuis minuit hier soir, environ 200 milliards d'importations chinoises aux États-Unis sont taxées à hauteur de 25% contre 10% auparavant. Et Donald Trump affirme qu'il prépare la même opération pour 325 milliards de dollars supplémentaires, ce qui reviendrait à imposer ces nouveaux tarifs à la totalité des importations chinoises dans le pays. Sur Twitter, Trump vitupérait ce matin, on n'a pas besoin de se presser pour trouver un accord, même si, écrit Donald Trump, votre président préféré est fatigué d'attendre que les Chinois se décident enfin à acheter nos produits agricoles. Donc, pas d'accord, pas de compromis au moment où on se parle. C'est sans doute un niveau plus élevé qu'il faudra discuter au niveau des deux présidents, Trump et Xi, qui normalement ont prévu de se voir dans les prochaines semaines, à condition évidemment d'un accord commercial entre les deux pays.
Merci à vous Grégory Phillips. Le Venezuela rouvre sa frontière terrestre avec le Brésil et sa frontière maritime avec l'île néerlandaise d'Aruba. Elles étaient fermées depuis la tentative de l'opposition vénézuélienne de faire entrer de l'aide humanitaire en février. En revanche, les frontières avec la Colombie et les autres îles néerlandaises, Bonaire et Curaçao, sont toujours fermées. 3 personnes migrantes ont été retrouvées noyées aujourd'hui. Des dizaines d'autres sont portées disparues après le naufrage d'une embarcation dans les eaux internationales au large de la Tunisie. Un bateau de pêche a pu sauver 16 personnes et selon les rescapés, 60 à 70 Africains subsahariens se trouvaient à bord de l'embarcation partie hier de Libye. 18h passées de 8 minutes sur France Culture, l'Assemblée nationale au chevet de Notre-Dame. Les députés examinent aujourd'hui le projet de loi qui encadre la réparation de la cathédrale. Emmanuel Macron a souhaité que l'édifice soit restauré en 5 ans. Le gouvernement évoque un chantier ambitieux, exceptionnel et unique. Le texte propose une souscription nationale, des avantages fiscaux pour les donateurs, un comité de contrôle pour le bon emploi des fonds, mais aussi d'éventuelles dérogations aux règles jusque-là en vigueur pour les monuments historiques. L'opposition dénonce une loi d'exception. Bonsoir Catherine Dutu.
Bonsoir.
Alors le débat qui revient comme un serpent de mer depuis le 15 avril, c'est faut-il oui ou non restaurer à l'identique la cathédrale Notre-Dame ?
Et c'est le député Les Républicains Pierre-Henri Dumont qui a commencé par porter le fer contre l'objectif présidentiel, restaurer Notre-Dame en 5 ans, soit en 2024, année des JO d'été à Paris. Selon lui, ce n'est qu'un signe d'hubris de la part d'Emmanuel Macron.
Vouloir faire une course contre la montre dans la reconstruction ? Vouloir y imprimer un geste architectural contemporain, d'après ses mots, est pour moi une hérésie. Parce qu'il faut avoir le recul nécessaire, respecter ce qui a été fait par ceux qui nous ont précédés. Et ce n'est pas sur un tel édifice que l'on peut imprimer sa marque au cours d'une présidence de la République.
Autre député LR, Marc Le Fur, craint lui les dérives des architectes qui s'engouffrent dans le concours proposé par l'exécutif pour la reconstruction de Notre-Dame.
On voit fleurir différents projets qui nous inquiètent. Je vous renvoie au Parisien du 23 mai, on voit tantôt une piscine, tantôt un espace vert placé au sommet de la cathédrale, tantôt des flèches qui se veulent résolument modernes, autant de gestes architecturaux dont nous ne voulons pas. Nous le devons à l'égard des bâtisseurs du XIIIe siècle. Nous le devons à l'égard des restaurateurs du XIXe. Nous le devons également à l'égard des donateurs qui ont donné non pas pour qu'on fasse n'importe quoi, mais pour qu'on reconstruise Notre-Dame.
Anne Bruniera, députée LREM du Rhône, rapporteure du projet de loi sur Notre-Dame, tente de calmer ses inquiétudes.
Je souhaite rappeler à ce stade que le diagnostic des dégradations et des travaux à effectuer n'a même pas commencé. Pour l'heure, les architectes poursuivent la réalisation de mesures d'urgence afin de préserver la cathédrale de nouvelles dégradations. Par ailleurs, ce sont les architectes, et je pense en disant cela aux architectes bien sûr en chef, des monuments historiques, qui pourront proposer des pistes de restauration en fonction de l'évaluation qu'ils auront faite de l'état du bâtiment.
Avis défavorable donc de la majorité présidentielle contre toute restauration à l'identique de Notre-Dame. Les LR ont échoué à faire adopter cet amendement à l'article 1 du texte, mais la question revient dans le reste du projet. À ce rythme, Antoine, il reste au moins 13 heures de débat.
Merci Catherine Dutu. Et après cet incendie spectaculaire, les riverains sont inquiets autour de possibles retombées de plomb. Plusieurs associations réclament une cartographie claire de ces retombées, et pas seulement sur l'île de la Cité, car une partie de l'ouest de Paris a été survolée par le panache de fumée. Bonsoir Maud Calvez.
Bonsoir.
Alors que sait-on de ces possibles pollutions par le plomb ?
Bien, il y avait 240 tonnes de plomb dans la flèche, 150 dans la charpente. L'association Robin des Bois, qui alerte sur ce danger, parle carrément de cendres de plomb le soir de l'incendie. Jackie Bonnemain, son président.
Aujourd'hui, les prélèvements que l'on a montrent qu'il n'y a pas de contamination de l'air, qu'en revanche, des poussières...
Ce plomb est d'abord sur le sol, sur la voirie, et on continue à voir des agents de propreté de la ville de Paris consciencieusement balayer et disperser les poussières alors qu'il faudrait les aspirer. Et puis on constate que certains restaurants restent ouverts comme si de rien n'était. Et donc on considère qu'il y a vraiment un laisser-aller assez inquiétant.
L'association qualifie Notre-Dame de déchets toxiques, l'arsenic dans l'alliage du plomb, l'étain dans les vitraux ou encore les fongicides dans la charpente. L'Agence régionale de la santé a relevé des poussières de plomb sur des bâtiments et des sols autour de la cathédrale. Le plomb peut causer le saturnisme, une maladie qui touche essentiellement les enfants et les femmes enceintes. Mais Cécile Somariba, responsable de la cellule veille et alerte pour l'ARS Île-de-France, se veut plutôt rassurante, on l'entend.
Aujourd'hui, les prélèvements que l'on a montrent qu'il n'y a pas de contamination de l'air, qu'en revanche, des poussières et de la terre dans laquelle des poussières se sont déposées montrent des valeurs à certains endroits, à proximité de la cathédrale en particulier, particulièrement élevées. Et ces zones ont été fermées d'accès au public.
En attendant plus de prélèvements chez les riverains, notamment, l'agence conseille de laver les jouets des enfants, de faire le ménage avec une serpillière. Selon l'ARS, le plomb devient dangereux seulement s'il est souvent ingéré. Une réunion publique autour de la cathédrale est prévue lundi soir à la mairie du 4e. La contamination au plomb risque d'être au cœur des débats.
Merci à vous, Maud Calvez. Le cargo saoudien qui mouillait au large du Havre depuis mercredi a finalement repris son chemin sans faire escale dans le port normand. Ce navire devait charger des armements français, mais une polémique était née sur leur usage. Plusieurs associations affirment qu'elles devaient être utilisées contre des civils au Yémen. Deux ONG françaises avaient introduit un recours judiciaire pour empêcher ce chargement controversé. Parmi elles, Action chrétienne contre la torture. L'un de ses responsables, Elias Geoffroy, se dit satisfait.
On voulait empêcher effectivement que ces équipements français, en l'occurrence des canons César, soient chargés sur le cargo pour l'Arabie Saoudite. On avait déjà des éléments concordants révélés par l'ONG Disclose qui nous indiquaient que ces mêmes canons étaient utilisés dans le nord du territoire yéménite à partir de la frontière saoudienne, depuis le territoire saoudien. Et ils ont pu avoir fait des victimes parmi les civils, puisque dans leur champ d'action se trouvent environ 430 000 civils. Et donc la présomption est forte que ces canons César aient servi dans ces bombardements et donc aient causé des victimes civiles. C'est en effet une victoire, disons une petite victoire, puisqu'on a pu tout de même empêcher le chargement des armes depuis le port du Havre, bien que notre référé ait été rejeté. Néanmoins, nous restons vigilants car nous ne sommes pas à l'abri d'une autre manœuvre visant à faire charger ces armes par un autre moyen ou quelque part enfin sur notre port. On reste vigilant concernant ce qui va se passer dans les jours à venir, notamment au port de Santander en Espagne, où le cargo est censé arriver prochainement.
Propos recueillis par Scarlett Bain. Emmanuel Macron a reçu le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, cet après-midi à l'Élysée. Ils ont évoqué ensemble un rapport français consacré à la responsabilisation des réseaux sociaux. Il propose la création d'une autorité administrative indépendante dans chaque pays européen. Son but, faire respecter un principe de transparence des réseaux sociaux sur leur manière de hiérarchiser et modérer les contenus. Bonsoir Fiona Mogadam.
Bonsoir Antoine.
Vous décryptez pour nous ce rapport.
Déjà dans ce rapport, il y a un échec, ça n'a rien de surprenant, celui de l'autorégulation des réseaux sociaux qui ne parviennent pas d'eux-mêmes à prévenir tous les risques d'abus. Le texte souligne aussi le manque d'informations des plateformes sur leurs modalités de mise en œuvre des conditions générales d'utilisation et de modération. La mission chargée de ce rapport est allée dans les locaux de Facebook et elle évoque les limites de la politique de transparence de la firme américaine. Il existe tout de même des démarches d'autorégulation qui doivent être amplifiées et crédibilisées, ce qui justifie l'intervention des pouvoirs publics. Alors comment ? Pour cela, il y a plusieurs piliers, dit le rapport. Il faut notamment une harmonisation au niveau européen. Elle permettra une action coordonnée des États. Mais le réseau social sera responsable devant chaque État membre de l'UE et non plus dans le pays où est installée la plateforme, ce qui est le cas actuellement. En France, c'est une autorité administrative indépendante qui serait garante de la responsabilisation des réseaux sociaux. Elle serait chargée de contrôler les obligations de transparence et de modération des contenus des plateformes. Elle pourrait aussi accéder aux informations que détiennent les réseaux sociaux et prendre des sanctions administratives comme des amendes d'un montant d'au maximum 4% du chiffre d'affaires mondial du réseau social en cause. Des pistes qui semblent convenir au PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, qui vient de déclarer avoir bon espoir que la législation envisagée par la France devienne un modèle utilisé dans toute l'Union européenne.
Merci à vous, Fiona Mogadam. C'est lundi prochain que le procès de Patrick Balkany va s'ouvrir devant le tribunal correctionnel de Paris. Le maire de Levallois va comparaître aux côtés de sa femme, son fils et de trois autres personnes dans une affaire de fraude fiscale et de corruption. Bonsoir Sylvain Tronchet.
Bonsoir Antoine.
Vous publiez sur franceculture.fr une longue enquête consacrée à 30 ans d'affaires qui ont jalonné la carrière politique de Patrick Balkany. Des affaires parfois étonnantes.
Oui, notamment l'une d'entre elles qui débute en 1998. À cette époque, Patrick Balkany n'est plus le maire de Levallois. Pour la seule fois de sa carrière, il a perdu les élections. Mais c'est ce moment que choisit la Chambre régionale des comptes pour examiner sa gestion passée. Une magistrate est nommée, elle s'installe à la mairie et là, elle découvre un système de détournement de fonds dans des associations paramunicipales. Cette magistrate a accepté de m'en parler à la condition qu'on ne donne pas son nom.
On avait affaire à des associations recevant de grosses subventions de la mairie et à la tête desquelles le maire, Patrick Balkany, avait placé des proches qui lui étaient redevables et qui se sont particulièrement servis. Et donc on avait tout un système de détournement massif de fonds publics.
Voilà, et concrètement, ce qu'elle découvre, c'est qu'une partie des cotisations des sportifs à Levallois sont détournées, qu'elles atterrissent sur un compte bancaire occulte. Il y a pas loin de 7 millions de francs de l'époque qui ont transité sur ce compte. Il y a des sommes en liquide qui disparaissent, des soupçons d'emploi fictifs. Cette magistrate a le sentiment d'avoir affaire à un système.
Ce système mis en place peut s'apparenter par un certain nombre d'aspects à un système mafieux. Des gens qui vous sont redevables, un système de détournement de fonds, avec l'omerta qui va avec. Bien sûr, personne ne parle. Quelle n'a pas été ma stupéfaction quand j'ai demandé aux services fiscaux à consulter les dossiers fiscaux d'un certain nombre de personnes, de découvrir que tous les dossiers fiscaux auxquels j'avais demandé à avoir accès avaient malencontreusement disparu.
Voilà, des choses étonnantes se passent. Et ce qu'elle m'a raconté aussi, c'est que les conditions de ce contrôle à Levallois étaient très particulières.
Patrick Balkany n'était plus maire de Levallois-Perret. En revanche, un certain nombre de fidèles de Patrick Balkany étaient encore à des postes clés et détenaient l'ensemble du système, ce qui rendait les choses un peu compliquées, au point que des menaces ont été proférées à mon encontre et j'ai été placée sous surveillance et protection policière pendant toute la durée du contrôle.
Et ce que deux autres magistrats m'ont expliqué, effectivement, c'est qu'à l'époque, cette femme avait été victime de mystérieux cambriolages, que sa voiture avait été vandalisée à Levallois, qu'elle avait été directement menacée. Alors, aucun lien n'a été établi avec sa mission à l'époque, mais le parquet a jugé que tout cela était quand même suffisamment inquiétant pour qu'on la place sous protection.
Et alors ces découvertes, est-ce qu'elles ont été suivies des faits ?
Eh bien non, les rapports de cette magistrate ont été transmis au parquet. Il y a eu deux enquêtes, mais l'une s'est conclue sur un non-lieu et l'autre semble s'être enlisé. Le parquet de Nanterre explique aujourd'hui qu'il n'en retrouve plus la trace.
Merci à vous Sylvain Tronchet. Votre enquête, Patrick Balkany, homme d'affaires depuis 30 ans, est à retrouver sur notre site franceculture.fr. Demain après-midi, temps orageux sur les trois quarts nord-est de la France. Orage accompagné de pluie sur le reste du pays. C'est le soleil qui va dominer. Température assez homogène, 11 degrés au Havre, 15 à Paris, 22 à Marseille. C'est la fin de cette édition préparée avec Jean-François Braun. Prochain journal à 22h. Il vous sera présenté par Mathieu Laurent.